D'abord le piano, l'instrument orchestre, mais qui, sauf exception, n'est pas dans l'orchestre. Puis l'envie de partager, être au cœur de cette masse de sons, de vibrations. Au cœur, ou plutôt devant, à la baguette, apprendre, écouter et donc diriger. On pourrait aussi dire conduire, emmener. Comment et pourquoi devient-on chef d'orchestre? Quelle est donc cette relation si particulière à la musique, au groupe, au public? Comment passe-t-on du travail de préparation en solitaire à la répétition, puis au concert? Bonjour Lucie Leguet.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous sur France Culture ce matin. Vous êtes donc pianiste et chef d'orchestre, nommée tout récemment chef assistante du directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Mico Franck. Vous allez commencer en janvier. Vous avez déjà travaillé comme chef assistante auprès de nombreux orchestres, notamment ces dernières années l'Ensemble Intercontemporain, l'Orchestre National d'Île-de-France, l'Orchestre National de Lille, l'Orchestre de Picardie. Vous travaillez également au Festival de Verbier. Vous avez créé l'Orchestre de Chambre de Lille, on en parlera. D'abord, qu'est-ce que cela veut dire être chef assistante, Lucie Leguet?
Alors c'est vrai que chef assistante, on se demande souvent à quoi l'on sert parce qu'on est souvent un petit peu en coulisses pour travailler avec le directeur musical. Et donc ça demande finalement beaucoup de compétences différentes. Et d'être toujours un petit peu aux aguets, comme un guet dans son échauguette qui observe un petit peu tout ce qui se passe. Et donc, c'est vrai que à la fois, il faut parfois remplacer au pied levé si le chef d'orchestre est malade, mais également être très à l'écoute de ce qui se passe sur le plateau et de lui faire un retour à chaque répétition par rapport aux balances. Parce que l'écoute d'un chef d'orchestre au milieu de ses musiciens et celui d'un chef assistant dans la salle n'est pas du tout la même chose. Donc il y a beaucoup de choses à voir avec lui là-dessus. Et lui s'occupe de certaines choses sur le moment. Et moi j'entends d'autres choses. Donc c'est vraiment un travail aussi d'équipe et une vraie collaboration. Et on sert également, par exemple pour les enregistrements, quand on est avec l'ingénieur du son, à donner aussi un avis musical là-dessus. Et puis très souvent le chef assistant est amené à diriger les concerts pédagogiques. Donc tout ce qui est amené à travailler avec les enfants et tout ce qui est éducatif. Donc c'est vrai que c'est une palette très différente et moi cette année, notamment avec cette histoire de Covid, j'ai été amenée parfois à remplacer au pied levé des chefs qui étaient malades.
Ah oui.
Donc il faut être aux aguets, toujours prêt à réagir sur toutes les situations.
Oui voilà, parce que vous êtes, avant tout, vous êtes chef d'orchestre, c'est-à-dire que vous dirigez. Et donc par ailleurs, auprès de certains chefs, vous êtes des oreilles supplémentaires, une écoute.
Exactement, c'est une écoute supplémentaire et qui leur est assez précieuse parce que c'est vrai que c'est un métier assez solitaire, chef d'orchestre.
Bien
sûr. On est seul à décider, seul à se rendre compte de beaucoup de choses sur le plan musical et c'est toujours bien d'avoir un deuxième avis.
Alors vous avez donc commencé par le piano, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la direction d'orchestre? Est-ce que c'est ce que j'ai dit, la masse, la puissance du groupe?
Alors également, c'est-à-dire que en tant que pianiste, je n'ai jamais fait partie d'un groupe et je me rappellerai toujours quand j'étais en horaire aménagé, ce qu'on appelle les CHAM aujourd'hui, de voir mes copains qui partaient à l'orchestre et puis moi toute seule sur mon piano. Donc c'est vrai que comme j'aime le groupe et les gens, j'avais besoin de partager d'une certaine manière la musique. Alors on peut le faire en musique de chambre en tant que pianiste, mais j'ai eu une rencontre avec un professeur extraordinaire qui s'appelle Jean-Sébastien Béraud, qui m'a donné l'envie et la chance de me réaliser en tant que chef d'orchestre et d'avoir accès à ce répertoire qui est gigantesque, hein, autant symphonique que l'opéra, que la musique contemporaine. Et à 15 ans, je me rappellerai toujours d'une expérience où on m'a demandé de jouer du piano au sein d'un orchestre. Et là, j'ai senti toutes ces vibrations et cette magie qu'il y a au sein d'un orchestre entre tous les musiciens. Et puis, je me suis dit comment je vais pouvoir avoir accès à cela puisque je ne suis pas musicienne d'orchestre. Donc, la seule solution, entre guillemets, c'était de devenir chef d'orchestre.
Oui, cette puissance, ces émotions, comment justement vous décririez ce que ça fait à la tête, au corps, d'être face à un orchestre, cette sensation-là, comment la décrire?
C'est assez incroyable, il faudrait être sur le podium pour le vivre et le comprendre, mais on ressent une énergie énorme avec l'orchestre et des vibrations, évidemment, à travers tout le corps. Et ce qui est assez aussi incroyable, c'est de pouvoir communiquer avec l'orchestre sans les mots, c'est-à-dire juste avec l'expression d'un visage, avec une attitude corporelle. Et donc, ce qui est très pratique quand on arrive dans un pays comme en Corée du Sud, où on ne parle pas la langue, où on peut communiquer seulement avec le visage, mais évidemment, on ressent plein de choses. Et ce qui n'est pas facile pour un chef d'orchestre, c'est d'analyser ce qui se passe sur le moment réel et de toujours anticiper le coup d'après. Parce qu'en fait, on dit en anglais conducteur, donc on conduit l'orchestre. Donc on n'attend pas que le son vienne à nous. C'est nous qui donnons une impulsion et on reçoit également de la part des musiciens un retour. Et c'est ça qui est assez extraordinaire en tant que chef d'orchestre, c'est de pouvoir faire le lien et l'échange avec les musiciens et de rebondir rebondir sur ce qu'il propose également, parce qu'on a voilà des musiciens extraordinaires qui ont une personnalité musicale, et puis il y a aussi un côté de management dans tout ça, parce qu'il faut gérer un groupe qui peut aller de 10 à 80, 100 musiciens. Mais c'est vrai que voilà, la première fois que j'ai dirigé sur un podium et que j'ai ressenti cette musique qui m'a traversé le corps, les vibrations qu'on ressent et l'énergie qui vient de toutes ces personnes en face de nous, c'est assez extraordinaire.
Et on parlait du corps, c'est aussi la direction d'orchestre, c'est aussi une gestuelle, presque un peu une danse. Comment ça se travaille, comment ça s'envisage ça, Lucie Leguet? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment une part de code? Voilà, il faut battre la mesure. Et ensuite, qu'est-ce qui relève de la personnalité de chacun? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que c'est comment on le sent?
C'est un petit peu tout ça. C'est-à-dire que moi, avec Jean-Sébastien Béraud, j'ai appris à avoir une battue la plus claire possible. Parce qu'avant tout, il faut être clair devant les musiciens avec les idées qu'on a dans la tête. Et on a seulement deux bras et les yeux pour s'exprimer. Donc avant tout, il faut avoir une gestuelle très claire et très simple. Souvent, quand on est jeune, on dirige avec des grands gestes parce qu'on veut montrer beaucoup de choses, on veut beaucoup communiquer, parce qu'on a plein d'idées dans la tête. Et finalement, parfois, il faut aller dans des choses un petit peu plus simples et diriger moins. Et ce qui se passe également quand on dirige un peu moins, les musiciens s'écoutent plus. Parce que plus on gesticule, plus on prend de la place et plus ils nous regardent, mais finalement ils se regardent moins. Et ce qui est important pour nous en tant que chef d'orchestre, c'est de créer l'écoute dans l'orchestre, parce que c'est de la musique de chambre mais sur grand format. Et puis après, chacun a sa gestuelle, c'est-à-dire que c'est très personnel. Moi, je suis gauchère par exemple, mais j'ai appris à diriger à la droite parce que c'est comme ça que l'on fait. Et en gros, à droite, on donne la mesure et à la main gauche, qui est la main du cœur, de l'expression, donne tout le côté expressif.
Voilà, ce qui enlève plus de l'interprétation.
Voilà, plus de l'interprétation. Mais c'est vrai que quand on observe tous les chefs d'orchestre sur la planète, chacun a son langage, a sa personnalité, et on voit également à travers une gestique le fond de la personne, c'est-à-dire comment elle est, son caractère, et on est vraiment à nu quand on dirige un orchestre, parce qu'on ne peut qu'être soi-même finalement, on ne peut pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre, et c'est très intéressant de voir les personnalités différentes à travers une gestuelle.
Alors, vous parlez de l'homme qui vous a initié à la direction d'orchestre, que vous considérez aujourd'hui encore, je crois, comme votre maître. C'est donc Jean-Sébastien Béraud, professeur au Conservatoire de Lille, où vous étiez étudiante. On va l'écouter parler du rôle de chef d'orchestre.
Mon professeur, Louis Forestier, il avait une phrase formidable. C'est la première qualité d'un chef, c'est de ne jamais empêcher l'orchestre de jouer. Parce qu'il y a des chefs qui ont ce talent que quand ils sont au pupitre, l'orchestre ne peut pas jouer. Ben si, ils jouent, mais ils sont bridés, ils sont coincés, ils ne peuvent pas y arriver. Alors ça, c'est bon. Donc, la première chose, c'est de permettre à l'orchestre de s'exprimer. Pour moi, un bon chef, c'est quelqu'un qui est capable de faire de telle manière qu'à la fin, on dise « quelle musique ?» et non pas « quel chef ?»
Jean-Sébastien Béraud, c'est issu d'une mini web-série qui vous était consacrée en 2019, réalisée par Camille Ducellier, Lucie Leguet. Ce qu'il dit là, Jean-Sébastien Béraud, c'est intéressant parce que c'est vrai que le chef d'orchestre, c'est un chef. On peut penser que c'est un certain ego et en même temps, il est au service de la musique et des musiciens. Il n'est là que pour ça.
Il n'est là que pour ça, il n'est là que pour servir la pensée musicale d'un compositeur. Et par exemple, avec l'ensemble intercontemporain, où on a les compositeurs avec nous, c'est encore plus facile d'être le plus proche possible de la vérité de ce qu'ils ont envie de traduire à travers leur musique, parce qu'il y a un vrai travail direct avec eux. Et c'est vrai que le chef d'orchestre doit s'effacer derrière la musique. Et en même temps, Jean-Sébastien Béraud, je me rappellerai toujours, il me disait, quand on dirige Mozart, il faut être Mozart. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment dans la tête du compositeur, dans son esprit, pourquoi il a écrit cette musique, dans quel contexte, mais il faut être aussi très humble et ne pas prendre de la place, mais seulement être au service de cette musique. Et c'est ça qui n'est pas évident, de trouver le juste milieu entre le moment où on se donne complètement sur scène, parce qu'il faut emmener tous nos musiciens dans cette énergie et dans cette envie de jouer, mais tout en restant à sa place et au service de la musique, tout simplement.
Oui, on le sait, il y a plein de grands chefs très autoritaires qui sont connus pour ça. Il y a même des fois un peu des légendes autour de ça qui terrorisent presque un peu les musiciens. Vous envisagez comment, vous vivez comment cette position d'autorité du chef?
Alors c'est vrai qu'il y a une certaine autorité à avoir puisqu'on doit décider. C'est un métier où on décide certaines choses. Mais aujourd'hui, moi je vois ce métier d'une manière un peu différente. C'est plus une collaboration avec les musiciens. Et comme je le disais tout à l'heure, on travaille en équipe. C'est-à-dire que je propose une idée, mais je vois aussi ce qu'on me propose de l'autre côté. Et on se rappelle de ces chefs comme Toscanini, qui disent « vous êtes vraiment minable, c'est pas possible ». Et puis, personne ne bronche, c'est-à-dire qu'aucun musicien se révolte. Aujourd'hui, vous pouvez pas parler comme ça à des musiciens, il y a un certain respect quand même. Et puis, voilà, comme je l'expliquais, c'est de la musique de chambre, et pour moi, j'ai presque envie de collaborer avec eux d'une autre manière, même si à un moment donné, il faut quand même que je décide, et puis, voilà, trouver ce juste milieu entre le moment où on est autoritaire et le moment où on laisse un petit peu aussi faire les musiciens, parce qu'ils ont besoin de cette part de liberté. Ils sont interprètes et ils ont besoin de ça.
Alors, il y a eu un moment important pour vous ces dernières années, Lucie Le Guay, c'est ce concours que vous avez remporté, le tremplin des jeunes chefs de la Philharmonie, jeune chef, femme, chef, c'était en 2018, vous aviez 27 ans, et vous avez dirigé à cette occasion des œuvres de la compositrice Camille Pépin avec l'orchestre de Picardie. On ne sait pas ce que ça peut susciter comme rêve chez celles et ceux qui seraient encore un peu en train de dormir, cette musique de Camille Pépin par l'orchestre de Picardie sous votre direction, Lucie Le Guay, à l'occasion de ce concours tremplin de jeunes femmes chefs d'orchestre organisé par la Philharmonie de Paris en novembre 2018 et que vous avez donc remporté. Il y avait une quarantaine de candidates au départ, c'est ça?
Oui, une quarantaine de candidates et on était 6 à être retenues. Mais ça, c'était il y a 2 ans. Et maintenant, voilà. Je peux vous dire que quand il y a un concours de femmes organisé, il y en a beaucoup plus qui se présentent, qui osent en tout cas se présenter.
Et oui, alors ça, justement, est-ce que c'est encore un sujet d'être une femme chef d'orchestre?
Bah, apparemment. Ouais. C'est-à-dire que je vois autour de moi beaucoup d'initiatives de créer des concours, mais également des masterclass pour les femmes chefs d'orchestre et pour les mettre évidemment en avant et leur donner de la visibilité. Moi, c'est vrai qu'au début, le tremplin, j'étais pas vraiment partante de participer à ce genre de concours, parce que pour avoir la parité, je voulais plutôt faire des concours avec des hommes en face de moi, ce que j'ai fait par la suite avec les concours de chef assistant. Ouais. Mais quand j'ai compris que l'initiative, c'était un tremplin, donc c'est-à-dire une découverte d'une personnalité et à travers la direction de l'œuvre de Camille Pépin et une pièce de Beethoven, je me suis dit, ah oui, c'est pour rencontrer en fait les directeurs des orchestres, et grâce à ce tremplin, ça a vraiment fonctionné, parce que finalement, j'ai été appelée après à diriger en 2019, en 2020, et puis encore pour les prochaines années avec différents orchestres. Donc finalement, ça marche quand même pas mal. Et peut-être qu'on a besoin de ce coup de pouce et d'accélération dans la carrière pour pouvoir avoir l'occasion de diriger. Parce que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, les femmes chefs d'orchestre n'avaient pas vraiment leur place, entre guillemets. Et depuis 2 ans, je vois même des femmes maintenant qui sont à des postes, comme l'orchestre de Picardie avec une nouvelle chef, Johanna Malengré, ou à l'orchestre d'Avignon. Donc ça bouge en ce moment quand même. Et peut-être qu'on a besoin de ça pour changer les choses. Mais j'espère un jour revenir à quelque chose de normal et d'égalitaire. Parce que pour avoir la parité, c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on soit en compétition, entre guillemets, pour les concours avec voilà des hommes en face de nous.
Est-ce que ça a à voir, ça aussi, avec ce qu'on disait juste avant sur la position d'autorité du chef? Est-ce que, au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer, vous... Est-ce que vous avez l'impression, quand vous vous retrouvez devant un orchestre, qu'on voit une femme ou qu'on voit un chef d'orchestre?
Alors, je pense qu'au début, on voit une femme, dans les premières minutes. Et puis, à partir du moment où on fait bien son travail et qu'on est à sa place, Et qu'on est crédible, je pense que rapidement les musiciens oublient que l'on est une femme. Ils pensent surtout au chef d'orchestre et à la personnalité musicale. Mais ça change vraiment parce que maintenant je trouve que de plus en plus c'est dans la norme. Et c'est vrai que c'est pas évident d'être jeune, d'être une femme. Et il y en a certains encore qui peuvent être un peu réticents à cela, mais c'est comme partout. Donc dans les autres métiers c'est également le cas. Mais comme aujourd'hui ça bouge énormément, maintenant c'est vraiment rentré dans les mentalités, je pense. Et donc ça ne choque plus entre guillemets. Et voilà, il faut juste bien faire son travail et puis on oublie le genre.
Tout simplement, finalement.
C'est pas si compliqué.
Tout est normal. Et justement, est-ce que vous... parce qu'on disait tout à l'heure que le chef d'orchestre, voilà, il y a des chefs qui parlent mal aux musiciens, qui sont très durs, très autoritaires. Les musiciens d'orchestre aussi n'ont pas toujours, sont aussi très exigeants vis-à-vis des chefs et ont parfois la dent dure aussi.
Ah oui, les musiciens peuvent être très très durs. Très très durs et un jour ils peuvent vous aimer et puis le lendemain vous détester. Donc c'est très compliqué. Et puis pour nous c'est pas évident non plus parce qu'on travaille sur quand même l'humain, sur les émotions. Donc ça joue avec nos émotions également et on peut pas rester insensible à cela. Donc moi qui ai beaucoup d'empathie en général, parfois je comprends pas la réaction de certains musiciens et ça me fait beaucoup réfléchir, ça me fait travailler, ça me fait remettre tous les jours en question. Mais ça forme aussi un caractère et une carapace. Et puis c'est les relations humaines, elles sont comme ça. Mais c'est vrai que les musiciens peuvent être intransigeants, être beaucoup plus durs même que les chefs d'orchestre. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que quand on arrive au podium, il faut être sûr à 400% et tout donner et ne pas avoir l'ombre d'une hésitation. J'ai dit une fois à un musicien, je ne sais plus, ah là tiens, je doute un peu, c'est bien ce que vous me dites, ça me fait réfléchir. Et puis un musicien a dit à côté, il ne faut jamais douter quand on est à votre place. Alors je dis, ah bon, d'accord. Ben. J'étais très surprise de cette réponse parce que évidemment, c'est important de douter, de se remettre en question et justement, moi, j'aime le travail de collaboration avec les musiciens. Donc, ce que me proposait le musicien en question était vraiment intéressant et remettait un petit peu en cause l'interprétation que je m'étais faite de la pièce. Et au contraire, ça, j'aime. J'aime qu'il y ait de l'interaction et qu'il y ait un échange et pas juste une seule direction où on est têtu et on va jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Donc, c'est important d'avoir toujours l'esprit ouvert. Et puis, on réussit à résoudre tous les problèmes à travers le dialogue pour moi. Donc, et la musique est le meilleur dialogue.
Et c'est aussi la dimension humaine du métier que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un orchestre, c'est aussi un peu comme une micro-société. Et que quand on est chef, il faut aussi... comment dire, travailler avec cette cohésion-là de groupe, quoi.
Le gros travail du chef d'orchestre, c'est la psychologie. C'est-à-dire comprendre l'orchestre, son identité, d'où il vient, où il veut aller, et comprendre les personnes qu'on a en face de nous. Et prendre en compte toutes ces personnalités et toutes ces qualités de l'orchestre pour pouvoir faire quelque chose avec eux, parce que parfois on n'a que 2-3 jours avec les orchestres pour créer un concert. Donc on se connaît à peine, et puis il faut créer la magie au concert, et c'est pas évident. Mais c'est ça qui est extraordinaire aussi, c'est que d'un coup, en une journée, on a l'impression qu'on se connaît depuis 10 ans, parce qu'il y a quelque chose qu'il se passe, il y a une magie qui est là et ça c'est assez génial. Mais c'est vrai que voilà, il faut savoir s'adapter aussi aux musiciens et être à l'écoute. Plus grande qualité d'un chef d'orchestre, je pense, c'est d'être à l'écoute des personnes avec qui il travaille.
À l'écoute de la musique et des personnes.
Et des personnes.
Et donc l'Orchestre Philharmonique de Radio France, là, avec lequel donc vous allez travailler dans les prochains mois, vous connaissez déjà son caractère justement ou pas?
Alors évidemment, je connais sa réputation. Oui. C'est un très très grand orchestre avec des musiciens fabuleux. Donc évidemment, je suis moi ravie de pouvoir travailler avec eux. J'ai pu les rencontrer lors d'une série où j'ai vu Mikko Franck travailler. C'était important de les rencontrer un peu avant. Mais voilà, j'ai vraiment hâte début janvier de commencer avec eux parce que c'est un vrai plaisir de voir à quel point ils sont réactifs, ils se connaissent très bien. Et ça, on le voit tout de suite quand il y a de la communication entre les musiciens. Ils se regardent énormément également. Et ça, c'est très important. Donc là, oui, j'ai de la chance, j'ai avec la crème de la crème. Donc, on va en profiter un maximum. Même en cette période compliquée, on va s'accrocher. Et puis, oui, ça, évidemment, Radio France est un orchestre fabuleux.
Et le travail de chef assistant dont on parlait au début, on imagine aussi que c'est très différent selon les endroits où on le fait. Là, par exemple, vous savez ce que vous allez être amené à faire plus précisément?
Alors, je sais que Mikko Franck attend de moi beaucoup de retours après chaque répétition, mais surtout vers la fin, vers la générale, pour la balance et pour même peut-être des fautes de matériel ou de choses comme ça. Et puis, je pense... ça c'est à voir avec l'équipe pédagogique, mais que je vais être amenée à peut-être diriger des concerts pour les enfants éducatifs, ce que l'on fait très souvent. Donc voilà, et puis il y a une dimension internationale aussi avec cet orchestre, donc il y aura aussi du travail, je pense, à droite à gauche. Et puis les enregistrements, je pense qu'ils enregistrent énormément de CD, et donc le chef assistant est aussi important dans cette tâche pour seconder le chef d'orchestre.
Une des spécificités de ce métier, Lucie Leguet, vous le disiez, c'est que le chef, la chef, est celui ou celle qui crée le son du groupe, mais que son travail est aussi beaucoup un travail en solitaire. Avant de se retrouver face à l'orchestre, vous travaillez toute seule. Vous travaillez comment ?
On travaille à la table, c'est-à-dire qu'on a les partitions sous les yeux et on prépare la répétition. Souvent, les musiciens, à la répétition, ils ouvrent la partition, même s'ils regardent un peu en avant, mais c'est là pour eux que le travail va commencer. Nous, c'est peut-être là où le travail va presque finir, c'est-à-dire qu'on sait déjà comment ça va se passer, on va planifier tout cela. Et donc, ce qui est important, c'est d'anticiper un peu tous les problèmes qu'on peut découvrir dans une pièce. Et donc, ce travail à la table est essentiel. Et c'est une écoute intérieure. Moi, je travaille aussi dans les trains ou dès que je peux, dans des endroits un peu insolite, mais voilà, ce qui est important, c'est la préparation de la répétition jusqu'au concert.
Sans l'orchestre, vous êtes toute seule, vous êtes privée de votre instrument. Bon, vous êtes par ailleurs pianiste, mais en tant que chef, votre instrument, c'est l'orchestre. Du coup, que devenez-vous quand il n'y a plus de concert ? Comme ça a pu être le cas ces derniers mois.
Alors ces derniers mois, j'ai particulièrement eu de la chance quand même parce que les concerts ont été maintenus et captés. Donc je me sens vraiment chanceuse de pouvoir participer à cela, même si les captations, on va pas pouvoir faire ça encore pendant un an. Et on a besoin du contact avec le public. Mais là, c'est vrai que, par exemple, le concert d'hier que j'ai donné, qui était le dernier concert pour moi de l'année, c'était en tant que pianiste avec un des musiciens de mon orchestre que j'ai créé, l'orchestre de chambre de Lille. Et c'était un concert vraiment qui était extrêmement touchant pour moi parce que ça se passait dans une maison de retraite et donc on était voilà au contact des personnes âgées qui peuvent sembler valétudinaires et fragiles et donc là leur apporter un petit peu de joie et de bonheur en ce temps compliqué du Covid, même si on a les masques etc, on voyait les sourires et la chaleur qu'il y avait et là j'étais seulement au piano mais ça m'a fait du bien de rejouer d'ailleurs cet instrument et de partager ça avec un musicien que je connais bien. Mais c'est vrai que les concerts maintenant se font un peu rares et que on tire un peu sur la corde, c'est-à-dire on va pas pouvoir être dans cette situation encore longtemps. Et puis chaque jour, on attend aussi des réponses du gouvernement. Et c'est un peu stop and go, c'est-à-dire qu'on nous dit d'y aller, et puis finalement non. Donc c'est une situation très délicate où on change aussi les programmes rapidement. Il faut s'adapter, donc avec des orchestres plus petits. Et non, c'est vraiment pas évident, mais voilà. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu faire ces captations et j'espère qu'on pourra continuer de jouer parce que je vois à quel point c'est important pour les musiciens, même si on n'a pas le contact avec le public, de continuer de pratiquer, de jouer l'instrument et de donner cette importance à la culture. On en a besoin absolument et donc on verra bien comment on sort de cette situation qui est dramatique. Et on se sent aussi chanceux quand on est en France parce que quand je vois la situation aux États-Unis, en Angleterre ou en Allemagne, où les instrumentistes, les musiciens changent de métier, et parce qu'ils n'ont plus les moyens de pouvoir jouer et d'en vivre. Et on se sent vraiment privilégié en France de pouvoir continuer.
Alors nous allons vous écouter diriger de nouveau Lucie Leguet, extrait du Tombeau de Couperin de Maurice Ravel. C'était en novembre 2019 avec l'orchestre Les Siècles à la Philharmonie de Paris, un an après ce concours dont nous avons parlé que vous aviez remporté. Extrait du tombeau de Couperin de Maurice Ravel par l'Orchestre Les Siècles, sous votre direction, Lucie Leguet. C'est de nouveau extrait de cette belle web-série Chef, réalisée par Camille Ducellier, qui vous a suivi sur 5 épisodes d'une dizaine de minutes chacun. Nous parlions du rapport avec le public, et vous avez donc créé cet orchestre, l'Orchestre de Chambre de Lille, avec, je crois, cette ambition, précisément, d'emmener la musique classique là où elle ne va pas forcément, vers des publics qui n'en sont pas nécessairement familiers. Concrètement, ça veut dire quoi et comment se réalise cette ambition ?
Oui, en effet, l'Orchestre de Chambre de Lille, qui est donc un orchestre de chambre plus petit, c'était aussi la raison pour laquelle je souhaitais peu de musiciens, c'était pour cette volonté de démocratiser la musique et d'aller vers des publics qui ne sont pas forcément orientés à venir directement dans les salles de concert. Donc ça nous amène à nous adapter aux lieux, aux personnes, et de proposer des programmes très divers. Et évidemment, on travaille également aussi avec les écoles, mais avec les maisons de retraite, les prisons, les hôpitaux. Et c'est vraiment une volonté de ma part, avec des musiciens qui sont aussi de ma génération, qui sont jeunes, engagés, de donner du sens à la musique à travers cette mission. Et il y a d'autres orchestres, beaucoup qui le font également. Mais c'est vrai que quand j'ai créé cet orchestre, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire dans la région lilloise ? Il y a déjà l'Orchestre National de Lille. Et j'avais cette volonté de créer un orchestre en 2014, parce qu'aussi, quand on est jeune chef d'orchestre, on ne sait pas non plus quelle carrière on va prendre. Et donc, il fallait que je crée mon propre orchestre. C'est ce que font beaucoup de chefs au départ. Ils créent leur ensemble. Mais voilà, il faut qu'il y ait une idée derrière, une mission importante, et un but de servir la musique à travers la transmission. Et depuis toujours, j'ai également adoré travailler avec les enfants, donc leur faire découvrir la musique à travers différents ateliers, que ça soit en petit groupe, en musique de chambre, à travers le cinéma, à travers d'autres musiques qui les touchent. C'est aussi comme ça qu'on amène un nouveau public, quand on se met à son service et à sa portée.
Oui, vous avez travaillé avec Wax Taylor, par
exemple.
Oui,
tout à fait.
Vous avez dirigé la comédie musicale Les Misérables.
Oui.
Ça, justement, cet éclectisme, est-ce que c'est une volonté, est-ce que c'est un choix, ou est-ce que quelque part, peut-être justement, on n'a pas le choix? Si on veut pouvoir toucher tout le monde, il faut aussi faire du Camille Pépin et du Wax Taylor.
C'est une vraie volonté de ma part, parce que je trouve que c'est important de s'enrichir de toutes les musiques, et pour moi, il n'y a pas de mauvaise musique. Toutes les musiques sont intéressantes, et au contraire, elles m'enrichissent beaucoup dans mon bagage personnel, et elles me donnent des idées, notamment pour lier les programmes, parce qu'aujourd'hui, un chef d'orchestre ne fait plus vraiment une ouverture, une symphonie, un concerto. Il faut aujourd'hui un petit CD lien entre divers arts. On peut par exemple mettre du Beethoven avec du rap, ou ceux qui font du hip-hop, ou des danses comme ça un petit peu différentes de rue. Et ce que j'aime bien, c'est créer des ponts comme cela. Donc quand on m'a proposé de travailler avec Wax Taylor, évidemment j'étais ravie de le rencontrer, déjà parce que je le connaissais pas très bien, à part un des titres qu'il a écrit. Et puis pareil pour la comédie musicale, j'en avais jamais fait, donc j'ai rencontré des chanteurs qui viennent aussi du monde lyrique, mais qui là changent complètement presque leur voix et leur attitude. Et c'est extrêmement enrichissant de rencontrer toutes ces personnes là et on rencontre aussi un autre public. Le public de Wax Taylor, c'est pas le même que celui de l'Orchestre National de Lille ou d'autres. Donc c'est intéressant aussi de montrer à ce public, qui était très surpris de voir un orchestre sur scène avec Wax Taylor, qu'on a aussi une importance dans d'autres lieux, et puis de créer des univers sonores comme ça. Et à travers les timbres si riches de l'orchestre, on peut créer des univers et faire des ponts entre les différentes esthétiques.
On parlait de transmission. Est-ce que la période que nous vivons, justement, vous fait réfléchir à ça, à cette question de la transmission ? Est-ce que ça bouscule ce que vous pensiez jusque-là ? Est-ce que ça vous conforte dans vos convictions ?
Encore plus, évidemment. C'est-à-dire que je sens à quel point c'est essentiel. Je vois aussi mes collègues musiciens, professeurs, qui, à travers les appareils, l'ordinateur, les zooms, etc., donnent des cours, mais qu'on a besoin d'être avec eux. Et je vois aussi les enfants qui s'accrochent. Je fais partie également de l'Orchestre Demos avec l'Orchestre National de Lille. Ça a été très difficile pour eux. C'était leur première année avec un instrument, et ils étaient tout seuls à la maison. Et on a essayé, à travers différentes activités et jeux, de leur donner envie de continuer. Mais on a aussi créé des rencontres avec petit effectif, parce qu'ils ont besoin de nous voir. Et la transmission, elle est extrêmement importante pour moi, et encore plus avec la musique, où dans ces moments où on est enfermé à la maison, c'est important de sortir un petit peu de tout ça à travers la musique, et de leur donner un peu une bouffée d'air frais.
Nous allons écouter à présent votre choix musical, Lucie Leguet, Eartha Kitt, Santa Baby. Vous nous dites quelques mots, on va commencer à l'écouter.
Oui, bah alors c'est tout simplement une chanson que j'ai choisie parce qu'elle est vraiment un peu dans l'esprit en ce moment de Noël. Et puis, c'est une amie à moi, Charlotte Savary, qui est la chanteuse de Waxteller, en fait, qui a fait une reprise de cette chanson que j'aime beaucoup. Et voilà, ça me rappelle un petit peu toute cette période de Waxteller, ce côté-là un petit peu léger. Et donc voilà, j'aime beaucoup cette chanson et ça me rappelle toujours Charlotte.
Alors, on écoute un peu. Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht. Papa Kid, Santa baby, votre choix musical, Lucie Legueux. Vous restez avec nous jusqu'à 8h et on quitte l'esprit de Noël. Il est 7h45. Voici La Fabrique médiatique, consacrée à une enquête publiée cette semaine dans le Figaro, Cancel Culture, Woke, quand la gauche américaine devient folle.